soir, 21h, 22h30. Rock, pop, électro, folk, et plus si affinité. Un groupe et un de ses albums cultes passés au peigne fin par le professeur Credo et Mister Guillaume.
Et salut à tous, encore une fois, jeudi soir, 21h pour une fois. Et ouais, on enchaîne avec It's the Road Together qui viendra nous accompagner toutes les deux semaines. Donc le jeudi soir sur Principe Actif à 20h. Donc du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Enchaîner directement avec une autre émission. Et on se retrouve donc pour un nouveau jeudi soir, la saison 6 du Pick-up. Professeur, tu es là. Bonsoir, comment tu vas?
Bien sûr, je vais très bien et enchanté également de retrouver le petit gars juste avant et puis qui est évidemment une plage horaire supplémentaire le jeudi soir parce qu'on se sentait bien seul des fois.
Ah bah oui, c'est comme ça aussi, hein, quand c'était très fourni une époque, un peu moins les saisons précédentes et ça recommence à revenir et c'est très bien comme ça.
Donc là par contre c'est très fourni ce soir.
C'est très fourni et c'est surtout, il va y avoir de la grosse guitare là, vraiment on va y aller à fond là.
Faites attention, ça fait très mal.
Ça va vous déboucher les oreilles, je pense, un petit peu quand même.
Alors, quatre postados, très boutonneux, mais affamés, sortis de leur garage, tout droit de San Francisco en Californie. On vous en dit pas plus, on vous passe la reprise exceptionnelle de ce groupe mythique du...
Des Mexicains. Et ouais, Rodrigo et Gabriela, qu'on avait vu du côté du Festival Rock, alors je sais plus quand, il y a combien de temps, mais ça doit bien faire à presque 10 ans, je pense.
Non, pas loin, 7-8 ans, oui, je dirais.
Et donc du coup, Rodrigo et Gabriela, ce qu'il faut savoir, donc c'est un duo qui fait de la musique plutôt à consonance hispanique, avec deux guitares acoustiques, deux guitares classiques même. Et donc du coup, ils étaient métalleux en fait avant et très gros fan de Metallica et donc du coup ils reprennent des morceaux de Metallica et on va vous en passer un en live justement, c'est Orion. Donc c'est parti, Orion par Rodrigo et Gabriela pour commencer. Bon, ça coupe un peu, hein, ça coupe Sex et du Life, c'était Live in Japan, sorti en 2008, année à laquelle, lors de laquelle Rodrigo et Gabriela étaient passés donc au festival Le Rock dans tous ses états. Donc voilà, avec cette reprise de Metallica, on a choisi la version live parce qu'elle est un petit peu plus courte et on a pas mal de morceaux longs à passer. Il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui, hein. Les titres de Metallica, c'est assez long quand même, il faut le dire, et pas que ceux de Metallica.
Alors Metallica, on démarre directement.
Et donc t'étais attiré par tes envies de Golden Gate et tout, et donc du coup t'as parlé de San Francisco. Et non, et ils sont de Los Angeles, Californie.
Enfin, ouais. Donc groupe heavy metal, hein. Californien du coup, monté par James Hetfield, le leader, on va dire, chanteur et guitariste, et puis Lars Ulrich.
Lars Ulrich, le batteur,
en fait, c'est le duo à la base.
Bah en fait, c'est Lars Ulrich qui poste une petite annonce et donc James Hetfield qui répond. Et donc, en fait, c'est les deux seuls qui ont été, je crois, tout le long dans le groupe, dans Metallica, depuis les origines.
Ouais, voilà. Et puis ce jeune batteur, donc, il assiste à un concert de Deep Purple au début des années 70. En 73, exactement. Et puis, il est amateur de jazz et de musique classique. C'est déjà un musicien en herbe, et il rêve de devenir batteur, et en fait, il arrive à se faire offrir une batterie par sa grand-mère.
C'est sympa.
Ce petit tardeux. Et donc, ça démarre comme ça. Donc, un duo, ce qui arrive des fois dans l'histoire du rock, même du heavy metal, puisqu'on est dans le courant du heavy metal, quand même, faut le dire.
Effectivement.
Et puis trash metal, on en parlera plus tard.
Ouais.
Et ça arrive parfois donc qu'il y ait une liaison directe entre un chanteur guitariste et un batteur, et qu'il y ait une création d'un groupe, et puis après d'autres musiciens évidemment vont les accompagner, bassiste, clavier ou tout ce que vous voulez.
Bon, après c'est une formation quand même Metallica qui est assez stable, hein, dans l'ensemble, les musiciens. Donc il y aura des événements, notamment Cliff Burton, le premier bassiste, qui va décéder assez rapidement. Mais donc du coup il y a, en dehors du début, parce qu'au début le groupe c'était James Hetfield, donc Lars Ulrich, Dave Mustaine et Ron McGovney. Alors ben, justement le problème ça va être surtout avec Dave Mustaine au début, qui va être qui était le premier guitariste solo en fait, et qui se prendra un peu la tête avec tous les manques du groupe, problèmes de drogue, d'alcool et puis d'égocentrisme un petit peu.
Très caractériel en
donc,
fait.
Ron McGovney va vite partir, et donc il y a aussi Kirk Hammett qui va arriver, et donc Mustaine lui va partir pour aller faire le groupe Megadeth. Voilà. Et Ron McGovney, lui, c'était le bassiste à la base, va être remplacé par Cliff Burton.
Voilà, tout à fait. Donc, et puis le groupe va naître comme ça. Et les premières maquettes vont paraître assez rapidement. Mm-hmm. Et dans le milieu des fanzines aussi spécialisées, toute la presse indépendante hard rock qu'on pouvait trouver. Que d'ailleurs, bravo. N'oublions pas toujours aux fanzines, peu importe hein, le style. Que ce soit de la pop, du rock, du hard rock ou du heavy, etc. Donc c'est par ce biais qu'ils se sont fait connaître assez rapidement.
Et en parlant de fanzine, donc il y a celui de Venus in Fuzz, le nouveau Very Important Fanzine qui devrait pas tarder à sortir, qui est dans les cartons, donc on devrait pas tarder à découvrir ça, je pense.
On espère, on fait évidemment la promo de ce fanzine assez génial, quoi.
Bon, ben moi je propose c'est de rentrer dans le vif du sujet maintenant. On a annoncé des grosses guitares, des grosses batteries, des doubles pédales, tout ce que vous voulez, du thrash metal, du heavy metal. Et on va commencer donc avec le morceau d'ouverture de l'album Kill 'Em All, parce que c'est lui qui sort en premier en 1983, premier album de Metallica, Kill 'Em All, Tuez les tous, tout simplement, vaste programme. Et donc du coup, premier morceau de l'album, Hit the Lights, et on enchaînera avec le titre Motor Breath. Allez, c'est les deux premiers titres de Metallica ce soir sur le pick-up.
Ça déchire, Metallica à fond.
Pick Up, l'album culte, c'est maintenant.
Voilà, on commence avec quelque chose tout calme, quoi.
Tout calme.
Vraiment très calme.
C'est solide guitare, alors on les aime ou pas. Ouais. Quand même très répétitif
avec
sur le
même,
deuxième titre, Motor Breath, qu'on vient d'entendre, et Hit the Lights avant, donc ça met dans le vif du sujet.
Ouais, ça... Il y a de la dextérité quand même. Ça s'entend un petit peu sur les guitares. Il y avait notamment, Kirk Hammett, c'est un élève de Joe Satriani. À la base, un de ses professeurs était Joe Satriani, qui est quand même un des guitaristes aussi. Alors, j'aime pas forcément Joe Satriani à chaque fois, parce que je trouve, du coup, c'est un peu trop, des fois, justement, toutes les ornementations et tout.
Est-ce que c'est pas
toutes ces improvisations qu'il peut y avoir autour. Et je trouve que la virtuosité, au bout d'un moment, faut quand même qu'elle soit assez limitée et que ça reste dans une certaine mesure, parce que sinon, ça en devient un petit peu trop. C'est comme le jazz, quoi. Le jazz, c'est pareil, des fois ça peut être intéressant, mais tout ce qu'il y a dans le bebop et tout, enfin, moi qui suis pas un puriste du jazz, des fois ça peut me gonfler un peu, faut le dire.
Ouais, tout à fait, mais là, ce
là je trouve qu'il y a pas une trop grosse dose, je trouve, sur ces morceaux-là.
Ce serait plus dans l'improvisation, et justement, la question que je voulais te poser, c'est le côté agaçant, moi, que je trouve justement dans les Heavy, c'est justement ce côté virtuose. Des guitaristes, tout comme Satriani, tout ce qu'il a pu amener, etc. On peut s'enlacer pour un, par exemple, quelqu'un qui ne joue pas de guitare, ou un, je sais pas, un mélomane tout court, peut se lasser très rapidement.
Ça peut se comprendre.
De soli. Mais bon, voilà, on arrive, dans ce groupe assez fou. Un truc assez violent qui est pas sorti depuis Motorhead, quoi. Mm-hmm. Ça décrasse un peu, quoi. C'est des grosses guitares, comme tu disais, double pédale, etc.
C'est clair que le côté à fond la caisse comme ça, ça fait bien penser à Motorhead quand même.
Ouais.
Enfin, je trouve en tout cas pas la voix, parce que forcément la voix de Lemmy, elle est inimitable. Mais sur les guitares et sur le côté à fond la caisse comme ça, enfin, il y a quand même, ça peut faire penser à Motorhead quand même. Je sais pas si c'est forcément une influence du groupe, mais en tout cas, ça arrive dans la lignée de ça, quoi.
C'est une grosse influence, apparemment. Bon, ils s'en revendiquent un peu. On arrive, donc, on est au début des années 80, hein, exactement 1983. Il se passe pas mal de choses, notamment dans le métal.
Oui, alors on va pas aller sur le métal tout de suite. On va d'abord voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, notamment sortie de Swordfish, Trombones de Tom Waits. Alors là, on est un peu éloigné de Metallica. Hein.
Très, très éloigné, mais pour moi, son meilleur album.
Power, Corruption and Lies, New Order.
New Order,
c'est pareil, c'est également pas le même genre, hein, mais ça, par contre, ça pourrait plus plaire à Gonzalo que du Metallica.
C'est évident.
Speaking in Tongues de Talking Heads. Donc à l'époque, on a dans le genre guitare un petit peu électrique ZZ Top avec Eliminator. J'ai jamais été gros fan de ZZ Top, mais je sais que c'est un album qui est quand même assez reconnu dans leur discographie. Echo and the Bunnymen sortait son Porcupine. Que je connais beaucoup moins, toi tu le connais un peu, il est comment celui-là?
Oui, bah, je le connais par cœur.
Oui, tu connais tout Echo par cœur, toi.
Il est très bien. On n'a toujours pas fait Echo, mais ça ne saurait tarder.
David Bowie, Let's Dance?
Ouais. Ça te dit quelque chose? Pull on your red shoes and dance the blues.
Yazoo qui sortait un album, je sais pas si c'est sur celui-là qui avait le tube.
Magnifique.
Yazoo, You and Me Both.
Bah là, on tombe dans les années aussi disco, début
pop,
des années 80.
Enfin, il y a pas mal de choses hein, dans ce début des années 80.
Il y a la fin du Birthday Party et le premier album From Earth to Eternity. J'ai oublié de le dire.
De Nick Cave, tu veux dire, le premier album. Parce que toi, Nick Cave, dit comme ça, oui, le premier album. Ah, comme si tout le monde savait que Nick Cave était dans The Birthday Party avant.
Je suis un eBay, il fait partie de moi, tu sais.
D'accord. Et dans les guitaristes virtuoses, Stevie Ray Vaughan, qui sortait aussi Texas Flood, plus dans le blues hein, cette fois-ci que dans le métal, évidemment. Donc là, on va pouvoir partir un petit peu, voir ce qu'il y avait. Du côté du punk, les Ramones faisaient Subterranean Jungle, aussi, avec la célèbre pochette dans le métro. Là. Ecstasy, Mummer, on en avait parlé de Mummer.
Longuement avec Yo-Yo Man,
c'était pas l'album qu'on avait fait.
Qu'on salue, tiens, s'il nous écoute, ça fait un petit bail.
Bon, et puis donc, on va arriver plus du côté métal. Alors, du côté métal, on avait Dio, Ronnie James Dio, qui est assez connu et réputé dans l'univers du métal, qui sortait Holy Diver en 1983. Qu'est-ce qu'on avait encore? Motley Crue avec Shot at the Devil. Alors là, on est plus dans du glam, hard rock et tout ça, quoi, avec Motley Crue.
Ouais, tout à fait. Mm. Et on a tout ce côté, justement, au début des années 80, entre 82, 85, justement, tout
le... Scission, ce qui est plus glam et ce qui va revenir du métal alternatif, en fait.
Ouais, très influencé par Alice Cooper. Ouais. Aussi, d'un autre côté, plus riche, je trouve, aussi, du projet de Lou Reed qui a pu faire sur le hard rock Metal Music Machine. Son album qui est complètement inécoutable à quatre faces. Donc on a ce côté glam metal, glam thrash metal. Alors on part dans un courant qui est complètement délirant et qui est évidemment très influencé par Motorhead et puis évidemment on l'a dit Deep Purple, Led Zepp, etc. Le heavy et qui arrive au début des années 80 avec des fois un côté aussi très plus commercial. Ouais. Avec d'autres groupes de métal là qui seront plus pour le coup FM.
Et donc du coup, il y a aussi un courant qui est quand même assez important, c'est la nouvelle vague du heavy metal britannique, la fameuse New Wave of British Heavy Metal, on en avait déjà parlé sur l'émission Iron Maiden, mais ça va influencer, mine de rien, ce courant-là aussi, ce que va pouvoir faire Motorhead. Et donc en fait, on a pris deux groupes qui étaient affiliés justement à cette vague-là, donc d'abord Def Leppard. Donc Def Leppard sortait l'album Pyromania en 1983, on va vous passer le titre Full In de Def Leppard, et ensuite Iron Maiden, avec l'album Peace of Mind qui reste un de mes préférés moi personnellement, Peace of Mind d'Iron Maiden, et on va vous passer Flight of Icarus. Donc on va parler un petit peu d'Icar, celui qui va se brouiller les ailes en allant trop près du soleil.
Le fils ou le père de Dédale?
Oh ben alors là je sais plus, tu me poses ça comme ça.
Ah bah oui, bah on demandera aux auditeurs, tiens, ils vont nous répondre. Je crois que c'est le fils.
Ouais, c'est possible. Allez, c'est parti en tout cas, donc Def Leppard, Full In, et ensuite Iron Maiden avec Flight of Icarus, c'était en 1983 du côté de l'Angleterre.
Sur le pick-up.
Retrouvez l'émission en podcast sur pickup.principactif.net.
Et voilà, Iron Maiden, ça faisait longtemps quand même. Flight of Icarus. Et pour répondre à ta question, après avoir bien réfléchi, avoir pris le temps des deux chansons, Icar était le fils de Dédale et c'est lui qui s'est rapproché trop près du soleil, faisant brûler, je sais plus, ses ailes et la scie, enfin, elles étaient construites. Et donc, du coup, ça a fait fondre.
Mythologie grecque.
Il s'est cassé la figure et donc, c'était Dédale, le papa.
Voilà.
L'architecte du labyrinthe, Minotaure et tout, mythologie grecque. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de thématiques comme ça aussi.
Très
dans
intéressant. On pourrait faire un spécial musique grecque. Et donc, Sertaki, etc.
On avait deux pendants un peu avec Def Leppard, c'est ce que je disais en réécoutant ce morceau, c'est que ça fait un peu rock FM vraiment avec des guitares hard rock et tout ça, mais ça faisait plus titre qu'on aurait pu passer en radio à l'époque. Ce qui n'est pas forcément le cas d'Iron Maiden, enfin sur ce morceau-là en tout cas.
Non, en tout cas, Def Leppard, oui, c'était plus le côté un peu glam trash metal, on va dire, et puis très commercial justement, amené à être tubesque.
Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Et donc, bah, le thrash metal arrive derrière. Donc, c'est ce qu'il disait Metallica à la base, c'était effectivement, donc il y avait tout ce côté glam avec les looks et tout, hard rock de l'époque. Et ça arrive, Metallica, c'est plus obscur, quoi. C'est pas forcément dans la démonstration, c'est vraiment plus dans ce qui est musique. Et donc, on va arriver avec le thrash metal et des rythmiques beaucoup plus rapides déjà, même plus rapides que ce que pouvait faire Iron Maiden et tous les groupes.
Ouais, beaucoup, puis beaucoup plus, ouais. beaucoup plus dur que ce qu'on peut voir. Avant, là c'est pas.
Ouais, peut-être plus lourd au niveau du son, ouais.
Ouais, plus lourd au niveau du son, moins humoristique que certains groupes de glam metal, justement. Là, on arrive dans le sérieux, dans le metal, pour ouais. moi.
Et donc, du coup, avec quand même aussi.
Sans être spécialiste, hein, je vous préviens.
Donc avec aussi quand même des influences punk aussi sur les structures à la base, c'est-à-dire des trucs assez simples au niveau des accords, mais ça va quand même dériver au fur et à mesure et arriver de plus en plus progressif. C'est vrai que si on écoute Metallica sur l'ensemble de sa discographie, il y a quand même pas mal d'albums où il y a des morceaux assez longs à rallonge, avec comme s'il y avait plusieurs mouvements. On en avait déjà parlé plein de fois quand on parlait de morceaux progressifs, comme une symphonie avec plusieurs mouvements. Et donc il y a quand même pas mal de titres comme ça qu'on va retrouver aussi dans les groupes de thrash metal par la suite, même si c'était pas forcément le cas sur les premiers albums et sur le tout début. Voilà. Et aussi introduction au fur et à mesure de guitare acoustique aussi pour faire des petits passages qui avaient une petite consonance médiévale presque par moment.
Ouais, médiévale et puis un côté balade aussi, puis des parties de guitare assez impressionnantes aussi, c'est quand même leur spécialité, quoi. Ils brisent un peu, ils cassent toutes les formules du rock, ils font un truc des fois un peu symphonique aussi, puis ils abordent des sujets sérieux apparemment, ces gens-là.
Et il y avait pas mal de sujets qui étaient liés à la société, ouais, notamment je crois que je sais plus lequel album de Metallica, mais il y en a tout un qui était sur autour justement ou une chanson autour du problème du crack aux États-Unis, cette drogue qui faisait des ravages et tout, et donc du coup il y avait quand même pas mal de sujets sérieux qui étaient abordés dedans, et puis aussi après sur d'autres groupes et tout, il y aura des sujets mythologiques, enfin plein de choses. Ouais, finalement, dans tout ce que, après, il y a d'autres genres du métal aussi qui vont émerger de ça, et donc du coup, dans tous ces genres-là, il y a énormément de thématiques et il y a énormément d'approfondissements et de variations à partir du heavy metal de base, en fait. Voilà.
Ouais, le heavy metal de base, donc qui a pu naître avec Led Zepp, etc., et qui eux donc le renouvelle à leur façon, avec un son aussi évidemment plus puissant, comme on disait. Donc le thrash metal associé à donc essentiellement quatre groupes. Mm-hmm. En fait,
ouais, c'est qu'on appelait le Big Four of Trash, en fait, après coup. Enfin, donc c'est des groupes qui commencent tous dans ces années-là, hein, début des années 80. Le Big Four of Trash, donc c'était Metallica, Megadeth, donc le groupe de Dave Mustaine, Metallica.
L'ancien de Metallica, donc qui est parti, qui a créé ce groupe et qui est donc dans cette partie de la musique du heavy très connu, hein, ouais. Pour les hardeux.
Slayer pour le coup,
beaucoup plus dur pour ma part. Pourquoi, j'ai ouais, énormément clair. De mal là, c'est un son beaucoup peut-être la basse est plus lourde.
Je pense que ça doit dépendre aussi des périodes du groupe, hein, parce que quand on écoute ceux du début, finalement c'est pas forcément
assez abordable, le chant sur les premiers.
Oui, bah écoute, moi je trouve que c'est pas le pire, hein, quand t'entends certains chanteurs, c'est pas non plus ceux qui sont en train de vomir sur scène, enfin je le trouve pas.
Ah non, je suis pas dans le comparatif, par contre j'aime bien Anthrax.
Et on a Anthrax qui va être effectivement le dernier, et donc tous ces groupes-là, groupes américains évidemment, donc ce Big Four.
Voilà, qui se mettent dans le truc. On est toujours dans les années 83-84, dans cette grande mouvance où donc le heavy revient, bien 10 ans après les chefs-d'œuvre de Led Zepp ou de Deep Purple, et on arrive à ce son assez incroyable et unique de Metallica.
Et aussi à noter quand même que avec ce style aussi, avec le thrash metal et tout ce qui est heavy metal, il y a aussi la virtuosité des instrumentistes, des guitaristes, des bassistes. Belle évolution des techniques à cette époque-là, en fait, hein, des techniques de basse, de guitare, et aussi de tout ce qui va être au niveau du son, distorsion du son. Et donc, du coup, on va arriver avec vraiment des virtuoses de la guitare électrique, ce qu'on va appeler des shredders, c'est-à-dire, donc, shredders, c'est ceux qui vont réussir à maltraiter leurs manches pour faire plein de choses qui n'avaient pas forcément été réalisées avant.
Voilà, et puis tout ce qui peut se passer évidemment de façon scénique, là avec évidemment des prestations assez incroyables, et tout ce qui est pyrotechnique, et puis des guitares héros pas possibles, avec façon Led Zepp, mais en plus dur, les cuirs noirs, les moules burnes, mais on rigole plus là.
Pas de caricature non plus, Redo va pas jusque là, nous en tout cas on a décidé...
Pas de caricature, mais on n'en est pas loin, on a plus dur.
On a décidé de passer donc deux de ces groupes du Big Four of Thrash, Anthrax et Slayer, donc au début de leur carrière, donc vers le tout début des années 80. Tout d'abord ce sera Soldiers of Metal sur Fistful of Metal de Anthrax, sorti en 1984, et ensuite Tormentor, morceau de Slayer, sorti sur Show No Mercy en 1983. Allez c'est parti. Donc on reste dans le dur, Anthrax, Slayer, c'est maintenant, c'est le Big Four of Thrash.
Thrash Metal sur le pick-up.
Pick-up, 21h, 22h30, tous les jeudis soirs.
hier.
Et ben toi, t'aimes pas Slayer, moi j'aime bien.
Non, voilà. Par contre, j'adore Anthrax.
Bah voilà, non mais on était un petit peu sur une scission entre les deux. Moi, je trouvais que Slayer, là, sur ce morceau-là...
Hors antenne, bien sûr, donc non, mais, tout de suite Slayer avec
Tormentor. Faut le dire quand même. Moi, je trouve que c'est assez proche, finalement, de certains morceaux de Metallica, ce morceau de Slayer, sur le début, en tout cas. Voilà. C'est mon avis. Après, on a le droit d'avoir des avis différents aussi, hein, professeur.
Là-dessus. Ah, bah, heureusement.
Et donc, voilà, Slayer...
Moi, ce qui me, pour moi, c'est vraiment pas le même son. Metallica, un son vraiment unique. Et là, j'aime pas du tout la voix du type d'avant. Anthrax, j'aimais bien, ouais. C'était
Thomas Araya, pour le citer. Donc, voilà, Thomas Araya, si le professeur n'aime pas ta voix. Voilà. Fallait le dire.
Quand même. Et juste avant Anthrax, donc là, c'est le côté new-yorkais. Ils viennent de Brooklyn. Et puis, donc, pareil, donc, il y a du trash metal, des fameux quatre groupes, là. Mm. Et donc, ils sont plus rigolos. Ils ont repris Alice Cooper. Donc, il y a aussi un des parrains de cette scène-là. On a oublié de le dire. Quelque part. Il y a un gros parallèle, ils ont repris les Pistols, puis ils avaient fait une collaboration incroyable avec Public Enemy, Bring the Noise, tu te souviens?
Ouais.
Et 10 millions de disques de vendus pour Anthrax. Slayer a fait XX disques, je sais pas où ils en sont au niveau vente, hein, on n'est pas dans le
Ils ont dû en vendre pas mal aussi, je pense. Hein.
Mais oui, c'est un groupe.
Il y a forcément
groupe.
Des gros voilà. Fans aussi de Slayer, tous les
donc,
fans.
Donc avec Megadeth et Metallica, donc les quatre groupes proposés sur le thrash metal. Là, on va revenir sur l'album en détail, donc qui est sorti cette fameuse année en 1983.
Ouais, enregistré en mai 83, sorti en juillet 83. Il n'aurait pas dû s'appeler comme ça au début. Le groupe voulait l'appeler. Comment est-ce qu'il voulait l'appeler déjà ? Metal Up Your Ass. Donc un truc bien violent avec normalement une main qui devait sortir une dague d'une cuvette de toilette. Et donc les distributeurs trouvaient ça un petit peu trop osé. Donc ils n'ont pas voulu le faire finalement. Et donc du coup, le groupe a décidé de faire un petit hommage à ses distributeurs en appelant l'album Kill Em All, c'est-à-dire Tuer les tous. En fait, c'est les distributeurs qui n'avaient pas eu le courage de prendre le premier titre. Donc voilà.
Et tout à l'heure, je parlais des textes, là, je vais en venir un peu. Donc, sur le Dico du Rock, on nous dit que Metallica aborde des sujets sérieux, répétant la fuite dans l'exaltation morbide ou la rêverie héroïque hein, qui trouve un écho chez les adolescents, le désespoir, la peur du lendemain, la mort. Et en Europe, Metallica, évidemment, va plaire, comme en France, avec tout le mouvement des Hardeux qui était évidemment complètement là-dedans. On a des parodies incroyables, des inconnus, notamment sur ces Hardeux désespérés. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, exactement. Je vois de quoi tu veux parler. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure de Dave Mustaine, donc qui partait justement avant que l'album soit enregistré. Il y a quand même 4 titres qui ont été écrits par lui et qui sortiront sur cet album et qui lui sont crédités. Hein. Ils n'ont pas été rancuniers non plus les autres membres du groupe.
On vous rappelle celui qui a fondé Megadeth derrière.
Voilà, exactement. Et donc, dont un des morceaux qui sera réutilisé justement. Je crois que c'est The Four Horsemen qui s'appelait à la base The Mechanic. Et qui sera réutilisé sur, je crois, le premier album de Megadeth, donc par Dave Mustaine. 10 titres à la base, plusieurs éditions bonus. Il y en a une qui est assez récente, justement, avec 3 disques, je crois, avec des lives dessus, des Ross Mix, c'est-à-dire des mix originaux, avant remix et tout ça.
Une pochette pas formidable.
Bah non, la pochette, c'est vrai qu'elle n'est pas extraordinaire, je suis assez d'accord aussi. Mais... Après, par contre, on la reconnaît.
Après, on la reconnaît dans la tête, dans le cerveau des gens, bien souvent, Metallica est assimilé à l'album noir.
Par contre, déjà.
Le Black Album qui arrivera bien plus tard.
Dès le premier album, par contre, une typographie avec le M et le A, justement, oui. Particulier, donc qui est utilisé dès le premier album, donc le logo Metallica, en fait, qui est déjà fait. Donc voilà, départ de Mustaine, ce qu'il faut savoir, j'ai vu ça, je sais pas, ce serait peut-être à vérifier, mais il paraît que la voix de Kirk Hammett, on lui a rajouté beaucoup d'écho sur ce. Kirk Hammett, attends, qu'est-ce que je dis? C'est pour lui qui chante, je pense, sur les. Comment dire?
C'est
James Hetfield.
C'est toi qui brise toutes les formules.
Qui fait les chants principaux et donc il y avait beaucoup d'échos sur la voix parce qu'il n'avait pas encore forcément trouvé sa voix justement sur ce premier album et donc il la travaillera au fur et à mesure des albums pour arriver à ce qu'il a maintenant. Donc du coup bah voilà, je crois qu'on a dit pas mal de choses déjà sur cet album de Metallica.
On trouve un truc justement aussi dans le hard rock dans le heavy là, avec des riffs de guitare qui sont assez accrocheurs et puis comme 10 ans avant avec Led Zepp ou Deep Purple avec quelques ballades qu'on retrouvera dans leur toute leur discographie d'ailleurs, et leur touche particulière et leur son, comme je disais, assez assez dur. Mm. Et là, ils mettent le feu avec The Four Horsemen.
Alors, les quatre cavaliers de l'Apocalypse, hein, The Four Horsemen, référence à ça.
Donc, créé par...
Créé par, en partie, effectivement, par Dave Mustaine, hein, écrit aussi. Donc, on va s'entendre ça, donc The Four Horsemen, et ensuite Whiplash, donc deux titres encore de cet album, Kill 'Em All, de Metallica. Allez, c'est parti.
1983, on est parti, Thrash Metal. We'll be right back.
Le disque fétiche, c'est maintenant sur le pick-up.
Jusqu'alors, le truc le plus violent qu'on ait jamais entendu, c'était Motorhead avec Overkill, pas mal dans le genre d'écrassage de conduit auditif, plutôt rude, cru et vulgaire. Et voilà, maintenant il y a Kill 'Em All, Metallica, et avec ce fameux titre juste avant qu'on vient d'entendre, où, comment tu dis, Whiplash.
Ouais, Whiplash.
Whiplash et The Four Horsemen, les quatre mousquetaires juste avant. Donc,
les quatre cavaliers de l'apocalypse, hein, c'est pas exactement la même chose que les quatre mousquetaires.
Voilà, on sait plus où est D'Artagnan. Et donc deux titres donc uniques. Donc avec ce son, on en parlait hors antenne, où moi je suis convaincu, ils ont vraiment leur son à eux unique dans le thrash metal. Par rapport aux autres groupes qu'on a pu vous proposer comme Anthrax, ou Slayer ou Megadeth qu'on n'aura pas le temps de passer ce soir. Ouais. Là maintenant on arrive à notre rue, on va respirer un petit peu, on va arrêter un petit peu les grosses guitares et puis rubrique nouveauté. Ouais. T'as eu le temps d'en écouter quelques-unes. Ouais. Moi actuellement je n'ai pas pu cette semaine vu que je suis momifié.
Alors sur ce que j'ai écouté notamment, Prophets of Rage, c'est un super groupe avec Chuck D de Public Enemy, Be Real de Cypress Hill, DJ Lord de Public Enemy et aussi les trois de Rage Against the Machine, Tom Morello, Tim Comerford et Brad Wilk.
Que donc, du bon ça, du hip-hop.
Alors c'est que du bon, mais tu vois, autant j'adorais la fusion de Rage Against the Machine avec la section derrière et puis le rap justement de Zach de la Rocha par-dessus. Prophets of Rage, c'est pas mal, dans le même genre, hein, dans le même genre fusion, un petit peu rock-hip-hop, mais j'ai moins accroché quand même sur l'ensemble, ça se laisse bien écouter, hein, c'est donc l'album Prophets of Rage. Ça se laisse bien écouter, mais c'est pas non plus exceptionnel. Voilà. Dans un genre pop avec voix féminine, Emily Haynes and the Soft Skeleton, c'est pas mal du tout, avec des petits synthés, des petits arrangements sympas. Donc l'album s'appelle Coy of the Mind. Et ça, j'ai bien apprécié écouter cet album-là. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre encore?
Ce que tu m'as fait écouter tout à l'heure, un type avec un banjo,
Elliot Brood. Ouais,
pas
ça,
mal.
J'ai vraiment bien aimé.
Pas mal, effectivement.
Assez folk, pop folk en fait, et Elliot Brood, ouais, c'est un album que j'ai bien apprécié dans ce qui est sorti. Attends, j'essaie de te retrouver le nom.
On a Cat Stevens également qui ressort encore un album.
Oui, sous le nom de Youssouf, effectivement. Alors, j'avais pas eu trop le temps de l'écouter celui-là, l'album de Cat Stevens. On a écouté 2-3 titres tout à l'heure avant pour sélectionner l'émission. Ça sonnait vraiment pas mal. L'album d'Elliot Brood s'appelle Ghost Gardens. Voilà, et l'album de Youssouf, c'est Losing Apple. Donc, Youssouf ou Cat Stevens. Donc voilà, dans ce que j'ai écouté, un peu le dernier Foo Fighters aussi. Bon, mais après, c'est pas.
Ah, je l'aime pas.
C'est pas forcément ma tasse de thé, hein, le groupe de Dave Grohl. J'avais bien aimé certains albums sur le début des Foo Fighters. Alors là, c'est pareil, c'est du rock, ça se laisse écouter, mais j'en ferai pas non plus une orgie. L'album s'appelle Concrete and Gold. Par contre, bah, comme d'habitude, un album des Foo Fighters, ça crée toujours un petit peu l'événement. Et je pense les tournées qui vont aller autour, parce qu'il y a beaucoup de fans, justement, autour des Foo Fighters. Quand même, Lee Ranaldo de Sonic Youth qui sort Electric Trim, il avait sorti un bon album solo, celui d'avant j'avais beaucoup aimé, celui-là j'ai un peu moins accroché sur le début.
C'est l'art des quatre membres de Sonic Youth d'avoir des projets tous parallèles ou solo, là a priori.
Alors, moi, j'aime
il a
beaucoup
l'air plus expérimental celui-ci.
J'aime beaucoup tout ce que fait Thurston Moore, ce qu'avait fait Kim Gordon, c'était pas terrible quand même.
Non,
dire.
C'est pas exceptionnel, ouais. Par contre le batteur Steve Shelley a produit pas mal de groupes, notamment Blonde Redhead, le premier album. Et puis contribue à encore énormément de groupes de noise très très américaines. Donc nous on vous a choisi deux nouveautés.
Alors juste mentionner que Ringo Starr sort un nouvel album.
Ouais.
J'ai pas eu l'occasion de l'écouter.
Starkey, le batteur exceptionnel des Beatles.
Phil Selway aussi, je crois que c'est un des membres de Radiohead si je me souviens bien. Phil Selway qui sort Let Me Go. JJ Johansson qui en sort un nouveau aussi, Bury the Hatchet.
Ah ça c'est une bonne nouvelle, notre bon suédois.
Et donc on a choisi effectivement nous deux. Alors les Australiens d'Angus et Julia Stone, la pop vraiment sympa. Donc ça se répète un petit peu Angus et Julia Stone, mais ça fait toujours du bien d'écouter ça. C'est très rafraîchissant, très doux. Donc là on va entendre le titre Oakwood. Le nouvel album s'appelle Snow et donc il est sorti vendredi dernier.
C'est un couple qui dure.
Ouais, c'est un couple qui dure. Mon frère avait eu l'occasion de les rencontrer en Australie, d'ailleurs, quand il avait passé un petit peu de temps là-bas. Et donc derrière, on a sélectionné
Ariel Pink. Alors là, on retombe un peu dans la pop bubblegum. D'ailleurs, c'est pas par hasard que le titre s'appelle Bubblegum Dreams, dedicated to Bobby Jamison. Mm-hmm. Donc ça vient de sortir cette semaine, on vous rappelle, c'est le vendredi, toutes les sorties, et c'est notre rubrique nouveauté sur le pick-up.
Et Ariel Pink vient lui aussi de Los Angeles, donc voilà son dernier album, et avec ce titre vraiment excellent.
Donc là, on respire, on arrête les grosses guitares, on a deux groupes terribles.
Mais vous inquiétez pas, il nous reste deux titres de Metallica derrière quand même.
Et après on revient sur la double pédale quoi.
C'est parti.
C'est parti Mister, on y est sur le pick-up. pas mal. je suis bluffé.
Ariel Pink, tout de suite, on va aller vite parce que il nous reste deux gros morceaux à vous passer. Donc Bubblegum Dreams, Ariel Pink, Angus et Julia Stone, Oakwood. Donc on doit parler rapidement du reste de la discographie. Alors Metallica, en fait, au départ, il y a quatre premiers albums qui sont vraiment dans le style de Kill 'Em All. Hein. Ride the Lightning en 84, Master of Puppets qui est culte aussi en 86, le troisième album. D'ailleurs, vous allez en entendre un extrait juste après. Et après, And Justice for All en 1988. En 91, ils sortent leur Black Album qui s'appelle Metallica, en fait, mais qu'on surnomme le Black Album. Et là, ils vont prendre un tournant un petit peu plus accessible, commercial, avec un son un peu différent aussi, avec notamment des ballades, comme la ballade Nothing Else Matters, qui est quand même assez connue, enfin, qui est très très connue et très appréciée, mais aussi plein de bons titres sur cet album du Black Album.
Et qui sera le plus populaire et le plus vendu, plus de 10 millions d'albums vendus.
Ensuite, donc... on a Load en 96 aussi, ouais, donc Load 96. Que j'ai écouté, qui m'a beaucoup plu, en fait, Load, et en fait, ça aurait dû être un double album à la base, ils avaient beaucoup de titres, et en fait, au lieu d'en sortir un double album, ils feront Load et Reload en 97. Celui-là, par contre, je ne l'ai pas écouté.
Et là, avec des arrangements pop metal assez classiques, nous dit-on. Après, ils font appel aussi à pas mal de DJ techno, donc ils sont assez ouverts, comme Moby, par exemple, pour remixer certains de leurs titres. Ils ont partagé aussi un EP avec Motorhead, le groupe de Lemmy, donc leur groupe, évidemment, culte dont ils se sont inspirés, Reload comme tu disais, et puis Ils ont même fait un album de reprise, ça m'a surpris, en 98, où ils s'attaquent à des titres de Discharge, Nick Cave et Killing Joke et Motorhead. Nick Cave notamment, il faut que j'écoute ça.
Et donc c'est Loverman de Nick Cave qui sort.
Ah, c'est Loverman, I'm Your Loverman.
Et donc du coup, ils ont sorti aussi Death Magnetic en 2008, Saint Anger en 2003. Et c'est beaucoup plus espacé maintenant les albums de Metallica. Le dernier date de 2016, Hardwired to Self-Destruct. Moi j'ai bien aimé Death Magnetic que j'ai écouté il n'y a pas longtemps.
Et attention, la dernière collaboration qu'ils ont eue avec le grand Lou Reed.
Ouais, mais c'était pas...
qui s'appelle Lulu, ouais, on en pense qu'on en veut, mais c'était donc la dernière performance du grand Lou Reed, s'il te plaît, respect.
Allez, deux gros morceaux qui nous restent maintenant, donc on va vous passer Master of Puppets, qui est un des morceaux cultes de Metallica sur l'album Masters of Puppets, et ensuite, pour terminer...
Il est un peu long, mais on aime bien.
Et ça, c'est pour Antoine qui est à l'écoute, qui a vu Metallica il n'y a pas longtemps, justement, il me le demandait avant l'émission en commentaire sur la page Facebook, et donc du coup, il va y avoir le droit, c'est Seek and Destroy pour lui, le meilleur morceau de cet album Kill 'Em All de Metallica.
Et mais moi ce que je disais également, et ce n'est pas Search and Destroy des Stooges, c'est Seek and Destroy Metallica sur le pick-up, c'est maintenant les deux derniers titres. C'est parti.
Allez, c'est parti, on y va. Allez, go. We'll be right back.
Likez Pick Up sur Facebook ou retrouvez-nous sur principeactif.net.
Finir avec Seek and Destroy au fond, désolé, mais on manque de temps, et ouais, les morceaux ils sont longs, il fallait laisser Master of Puppets en entier quand même.
Metallica.
Pardon, je m'étais trompé.
Ah, voilà mon micro. Metallica, et donc ce solo, ces solis incroyables de ce jeune Kirk Hammett, jusqu'où s'arrêtera-t-il ici, jusqu'à l'orgasme? Non, car ça repart. Putain, c'est notre peau que veulent ces gars, et c'est complètement exsangue que l'on ressort de notre spot humide entre nos deux baffles éventrés, même pas la force des fois de mettre la face B de l'album, tellement ça envoie. C'était Metallica, effectivement, ça envoie. Si vous avez le courage, ou effectivement, et que vous avez le vinyle, parce que ça a été évidemment réédité en vinyle, je suppose.
Bien sûr.
Bon, bah, mettez l'autre face quand même. Il y a quelque chose. Même si,
clairement.
Honnêtement, à la base, je t'ai proposé cette émission pour revenir dans du hard rock, du heavy metal, du thrash metal, comme on a dit. Donc, je suis pas fan, mais quelques. Parfois, bah, pour moi, surtout avec ce titre, c'est punk.
Ouais, c'est vrai.
Metallica, c'est punk. On s'arrête là. Bye bye.
Pas sur toute la carrière, mais bon, c'est comme ça. On espère que ça vous a plu. En tout cas, on vous réinvite à aller réécouter justement Metallica, les autres albums. En tout cas, nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau pick-up. On sait pas encore pourquoi. Ce sera
ni
jeudi.
Comment, mais on le fera.
Jeudi à 21h. Et en tout cas, surtout, n'oubliez pas.
Gardez le power sur Principe Actif. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux et tout le tralala, etc., etc. Allez. Principeactif.net, 102.4.
Tout à fait.
On vous aime, chers auditeurs.
Allez, ciao. À la semaine prochaine.
À jeudi prochain. Ciao.
Pick Up. Tous les jeudis soirs, 21h, 22h30.